Bien, bonsoir à chacun et chacune. Nous voici réunis pour reprendre ce petit parcours que nous avons entamé au mois de février déjà. Cette première rencontre, d'une certaine façon, peut être vue comme un tout qui nous a introduit très sommairement, mais néanmoins introduit aux différentes dimensions de ce qu'est l'islam, sa foi vécue, son organisation, son histoire, etc. Et maintenant, nous allons avoir un ensemble de trois séances, aujourd'hui et les deux prochaines, qui seront davantage des séances que l'on pourrait dire de théologie comparée, où nous allons prendre chaque fois un thème commun aux deux traditions religieuses, musulmane et chrétienne, pour essayer d'en percevoir la cohérence propre et les conséquences pour pouvoir se rencontrer en vérité et se comprendre, ou essayer en tout cas d'éviter un maximum de malentendus. Ces trois séances nous conduiront aussi, les uns et les autres, nous sommes sans doute en grande majorité chrétiens, même si l'un ou l'autre musulman font l'honneur de suivre le parcours, les uns et les autres, ces trois séances nous conduiront aussi à beaucoup de rigueur par rapport à notre propre foi. C'est découvrir que ce que nous croyons a une cohérence propre et que ce que nous disons parfois très communément a besoin parfois aussi d'être plus structuré, plus approfondi pour prendre vraiment la mesure de ce qui fait la cohérence de notre foi. Aujourd'hui, pour cette séance-ci, la question qui nous retiendra est la question de la révélation et la question de la Bible et du Coran. Il est incontestable que juifs, chrétiens et musulmans, nous avons un point commun fondamental qui est cette affirmation que Dieu s'est révélé. Ce n'est pas rien. Et d'autres grandes traditions philosophiques ou religieuses de l'humanité ne connaissent pas ce concept de révélation. Donc nous avons là un point commun très important entre juifs, chrétiens et musulmans, de dire que Dieu se révèle, c'est-à-dire que nous recevons Dieu de Dieu. C'est un point commun important. Mais dans le même temps, il est nécessaire de bien voir que notre approche de la révélation est aussi différente, parce qu'autrement nous risquons très vite de ne pas nous comprendre ou d'arriver à des malentendus importants, en se soupçonnant mutuellement de mauvaise foi éventuelle. Alors le petit parcours que nous allons faire aujourd'hui sera en quatre étapes. La première, où nous nous interrogerons sur cette question de la révélation, telle qu'elle se pose dans la tradition judéo-chrétienne et dans la tradition musulmane. Puis nous examinerons comment se présente le livre qui consigne cette révélation, la Bible et le Coran, comme livre, que disent-ils d'eux-mêmes. Et puis dans un troisième temps, nous réfléchirons au statut du livre dans les deux traditions, et nous conclurons par quelques implications pour la rencontre interreligieuse. Commençons par cette question de la révélation. Cette affirmation fondamentale que Dieu a parlé aux hommes comprend en elle-même un anthropomorphisme extraordinaire. On attribue à Dieu le fait de parler, qui est à proprement un attribut humain, et qui plus est, dans un langage qui soit accessible à la raison humaine. Donc dire Dieu a parlé, que ce soit pour les juifs, pour les chrétiens ou pour les musulmans, c'est une proposition qui en soi est déjà problématique. C'est attribué à Dieu, c'est attribué de la parole, et supposé en outre qu'il parle dans un langage accessible à la raison humaine. Comment la raison humaine serait-elle capable de comprendre un langage divin? Comment un langage humain serait-il capable de contenir la pensée divine? Nous sommes devant des paradoxes dans l'affirmation initiale des traditions religieuses qui se basent sur une révélation, qui disent que Dieu a parlé. Ce paradoxe est lié au fait même de la révélation. C'est un paradoxe auquel sont confrontées toutes les traditions révélées. Mais ce qu'il est intéressant d'essayer de percevoir ce soir, c'est de voir comment, dans le cas qui nous occupe, les traditions chrétiennes et musulmanes ont l'une et l'autre essayé de rencontrer ce paradoxe. Les croyants, qu'ils soient chrétiens ou qu'ils soient musulmans, ont à pouvoir rendre compte de cette affirmation qu'ils tiennent et qui est pour le moins paradoxale, à savoir que Dieu parle. Dans une perspective rationaliste, l'objection principale au fait de la révélation est de dire que si la révélation est conforme à la raison humaine, on n'en a pas besoin, puisque la raison humaine suffit. Et tandis que si elle n'est pas conforme à la raison humaine, elle est inintelligible pour nous, et donc n'est pas intéressante non plus. Elle est également inutile. Il y a donc, par rapport à l'affirmation que Dieu se révèle, une objection rationaliste que tant le monde musulman que le monde chrétien ont dû rencontrer. Ce problème fondamental ne cesse de se poser à nos deux traditions religieuses et nous ne devons pas le sous-estimer. Nous devons prendre la mesure de ce que nous disons quand nous disons que Dieu parle. Comment trouver un équilibre entre ce pur rationalisme qui exclut le principe même de la révélation parce qu'elle serait inaccessible à la raison humaine ou qu'elle se confondrait avec cette raison humaine, et d'autre part, un littéralisme outrancier que l'on trouve parfois dans certaines attitudes religieuses fondamentalistes, que ce soit dans le monde chrétien ou dans le monde musulman, qui conduit à des anthropomorphismes insupportables quand on veut attribuer à Dieu strictement l'attribut de la parole comme on l'attribue à l'être humain. Il y a là une atteinte au mystère même de Dieu lorsqu'on tombe dans un fondamentalisme qui voudrait réduire le fait de la parole de Dieu à l'attribut humain de la parole. Comment trouver un équilibre croyant entre le pur rationalisme et un littéralisme qui porte atteinte à la transcendance divine. Pour la tradition chrétienne, la question s'est située dès les premiers siècles au niveau du langage prophétique. Le langage prophétique, le prophète est un homme de son temps qui utilise le langage et la culture propre à son milieu. Et c'est l'assistance de l'Esprit Saint qui éclaire son jugement et le rend conforme au jugement de Dieu. C'est le thème de l'inspiration divine, cette inspiration qui permet de prendre en compte tout à la fois le caractère humain de la révélation, diversité des auteurs, des périodes, des milieux, des cultures, des genres littéraires, etc., et son unité dans le plan divin à travers l'assistance de l'Esprit-Saint. Dans une perspective chrétienne, la révélation est donc à la fois pleinement humaine et pleinement divine, et le paradoxe lié à l'affirmation de la révélation est surmonté par le recours à l'inspiration divine, au rôle de l'Esprit-Saint qui accompagne l'activité prophétique qui s'exprime en termes humains pour rendre l'expression prophétique conforme au projet divin. Donc nous voyons que dans une perspective chrétienne, le thème de l'inspiration est important. Il est bon de le noter et de le retenir parce que nous verrons qu'il en est que c'est tout différent dans le monde musulman où précisément l'inspiration est un mot utilisé pour quand il n'y a pas de révélation. Donc, en judéo-christianisme, on parlera de révélation par inspiration. Qu'en est-il alors dans le monde musulman qui, au niveau formel, au niveau logique, est confronté à la même question, celle de surmonter à la fois les anthropomorphismes outranciers et le rationalisme pur? La première question qui s'est posée dans la théologie musulmane a d'abord été celle de la langue du Coran. Vous vous rappelez que lorsqu'on a présenté le Coran est pour les musulmans, le véritable miracle prophétique qui authentifie la mission du prophète Mohammed en raison de la qualité et de la beauté de sa langue, pas seulement en raison de son contenu, mais en raison aussi d'une espèce d'esthétique coranique, d'une beauté au niveau de la langue. Et donc la première question qui s'est posée sur le plan religieux était donc de se demander d'où vient cette langue tellement extraordinaire. Peut-elle être considérée comme une langue humaine, faite de conventions d'hommes, ou au contraire, est-ce une langue divine? La tendance qui, à travers les siècles, s'est imposée, tient avec des nuances pour l'origine et la nature divine de la langue du Coran. Mais s'il y a une origine et une nature divine, il faut dès lors pouvoir rendre compte du fait que c'est compréhensible pour l'être humain et pour la raison humaine. Et c'est là que l'approche de la pensée musulmane est différente de celle de l'inspiration. C'est que ce qui joue le rôle déterminant pour rendre compréhensible cette révélation divine est le rôle d'intermédiaire de l'ange Gabriel dans la transmission de la révélation au prophète. Cela vous paraîtra peut-être étonnant à première vue, mais il faut pour cela se remettre un petit peu dans un arrière-fond philosophique qui est la philosophie néoplatonicienne des niveaux d'être où entre chaque niveau d'être, il y a un niveau intermédiaire qui participe à la fois au niveau supérieur et au niveau inférieur et qui permet ainsi d'établir le lien. Et par sa nature angélique, l'ange Gabriel est à la fois apte à comprendre la parole éternelle de Dieu et à la transmettre au prophète en langue arabe. L'affirmation religieuse repose donc sur cette représentation philosophique néoplatonicienne, hein, où donc on considère l'ange comme étant ce niveau intermédiaire entre le monde divin et le monde humain. La théologie classique fera d'ailleurs de l'intervention de l'ange le critère de distinction entre la révélation à un prophète et la simple inspiration à un sage, ou un spirituel, ou un mystique, ou à un saint. Donc vous voyez que ici, l'inspiration n'est pas liée à la révélation, mais au contraire, est ce qui démarque de la révélation. Ce qui caractérise la révélation et qui l'authentifie, c'est l'intervention de l'ange Gabriel pour permettre précisément de surmonter ce paradoxe d'une communication possible entre cet univers divin et cet univers humain. Ce débat sur l'origine de la langue du Coran recouvre partiellement celui sur le caractère créé ou incréé du Coran, et la solution moyenne qui s'est imposée affirme le caractère éternel et incréé du Coran comme parole de Dieu, mais son caractère créé comme texte lu, récité ou écrit. C'est la position acharite que nous avons eu l'occasion de préciser lors d'une des séances précédentes. La tendance classique dominante, puisque il y a à la fois cette affirmation du caractère éternel et incréé du Coran comme parole de Dieu et son caractère créé comme texte lu, récité ou écrit par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, la tendance classique est de s'en tenir fermement à une transmission mot à mot de la parole de Dieu au texte du Coran, le prophète ne jouant qu'un rôle de simple transmetteur. Et de ce point de vue-là, il est important de se rappeler que les schémas qui sont sous-jacents à la représentation coranique de la révélation sont des schémas de descente. Les deux mots qui sont utilisés en arabe, tanzil ou nuzul, c'est chaque fois la même racine, nazala, descendre. Donc la révélation, par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, est descendue sur le prophète Mohammed, qui joue un simple rôle de transmetteur. Donc nous le voyons déjà au niveau plus théologique, au niveau de la question de la révélation, on a deux approches différentes. D'un côté, une révélation par inspiration, et de l'autre côté, une révélation par transmission grâce à cet intermédiaire que joue la figure de l'ange Gabriel. Premier niveau où nous pouvons percevoir des différences importantes. Ces différences se poursuivent si nous regardons d'un peu plus près les livres tels qu'ils se présentent de part et d'autre. Car un livre, il a bien sûr son contenu, mais cela vaut la peine aussi de regarder sa structure, la façon dont il se compose, car un livre parle aussi beaucoup sur lui-même, indépendamment de ce qu'il contient. Si nous prenons tout d'abord la Bible, c'est un ensemble, suivant les canons retenus par les différentes églises, les unes ou les autres, mais enfin, disons, d'environ 73 livres, qui sont tous attribué à un auteur humain, qui est soit authentique, rarement, soit plus souvent éponyme. C'est un ensemble de livres dont la rédaction s'étend sur certainement plus de 11 siècles, depuis sans doute le 10e siècle avant Jésus-Christ jusqu'à la fin du 1er, début 2e siècle de notre ère. C'est donc une histoire rédactionnelle longue qui traverse différentes cultures, des langues, des milieux sociaux très différents, des textes qui ont été aussi largement retravaillés aux différentes périodes. Chaque livre porte la trace dans sa rédaction de ses conditionnements et relève de genres littéraires particuliers. Et de plus, aux yeux même du croyant, juif ou chrétien, la révélation comme corpus de texte, comme ensemble de texte, n'a trouvé que très tardivement sa forme et son identité. Le peuple hébreu a vécu longtemps de tradition orale, et la mise en forme écrite progressive a été l'objet de refontes successives, dont certaines ont été assez fondamentales. Si nous prenons les seules écritures chrétiennes, le Nouveau Testament, ce que l'on appelle le Nouveau Testament, les écritures propres aux communautés chrétiennes, elles se présentent, mais d'une part, comme une relecture des écritures antérieures, se présente comme une relecture de l'ensemble des écritures du peuple juif, à la lumière de la vie de Jésus et de la vie des premières communautés chrétiennes. Et ces écritures chrétiennes sont donc, par leur nature même, nécessairement plurielles, puisqu'elles sont liées à la vie des communautés chrétiennes qui les génèrent et qui les portent. Elles sont plurielles et elles sont secondes par rapport à l'annonce de l'Évangile et à son incarnation dans la vie d'une communauté. On ne sait d'une certaine façon écrire un Évangile que parce qu'on en vit. Hein, l'Évangile n'est pas un texte qui précède, mais il y a une vie du Christ ressuscité dans une communauté chrétienne qui génère, qui est la production d'un texte. Un trait propre du rapport chrétien à l'écriture est cette conviction dès la résurrection du Christ que Jésus accomplit les écritures. C'est ce beau verset du début de la lettre aux Hébreux, après avoir parlé à nos pères à bien des reprises et bien des manières dans les prophètes. Dieu, en la période finale où nous sommes, nous a parlé en un Fils qu'il a établi héritier de tout, par qui aussi il a créé les mondes. Donc une histoire de rédaction longue, un statut spécifique d'une partie de ces écritures, celles qui sont produites par les communautés chrétiennes, comme exercice de relecture des écritures antérieures à la lumière à la fois de la vie de Jésus et de la vie suscitée par la résurrection du Christ dans ces communautés. Mais nous devons aussi prendre en compte que la question de l'identité et du nombre des textes révélés ne s'est précisée que très très progressivement, puisque la fixation de ce que l'on appelle un canon des Écritures, question héritée du judaïsme, que le synode de Yavne vers 100 après Jésus-Christ hésitait encore sur certains livres, cette question a pris du temps pour les chrétiens aussi. Le premier canon chrétien est daté d'environ 150, mais la question sera reprise par de nombreux conciles, jusqu'encore au concile de Trente en 1546. Donc, il est important de bien voir que on est dans un processus long de constitution qui traverse les siècles. Et un point important à prendre en compte, me semble-t-il, en particulier lorsque nous y réfléchissons dans notre relation avec des amis musulmans, c'est que la règle qui guide la fixation du canon est une règle de foi et non une règle de critique historique. Un texte n'est pas retenu dans le canon parce qu'il est très ancien ou parce qu'il peut être attribué de façon plus ou moins certaine à tel ou à un tel, mais c'est la fidélité à la tradition reçue des apôtres qui détermine le fait qu'un texte est intégré dans le canon. Donc c'est donc une règle de foi et non pas une règle de critique historique qui conduit à l'établissement du livre. Si nous mettons face à cette présentation très sommaire du livre des traditions, de la tradition judéo-chrétienne, le Coran, nous avons un livre qui se présente de façon très différente. Le Coran est un bloc très homogène, avec dans la perspective traditionnelle un seul transmetteur, le prophète Mohammed, une seule langue, l'arabe, un temps de révélation relativement bref, une vingtaine d'années, de 610 à 632 de notre ère, année de la mort du prophète, dans la perspective traditionnelle, cette prédication coranique a aussi été mise par écrit assez rapidement, avec une précision croissante, grâce, comme nous l'avons vu, à l'invention des points diacritiques et des voyelles brèves, et les problèmes critiques qui subsistent, celui des différents recueils ou des différentes lectures, ne concernent finalement que des points mineurs du texte qui, dans son ensemble, se présente de façon assez homogène. Nous avons vu dans les cours précédents que cette perspective traditionnelle, classique, est quelque peu mise à mal par les travaux les plus contemporains qui sont faits au niveau historique ou sur le Coran lui-même, mais il n'empêche que même en prenant en compte les travaux les plus critiques, on serait face néanmoins à un texte qui présenterait une unité très forte, puisque dans les travaux les plus critiques, on supposerait la production du texte du Coran à Bagdad comme un texte chargé de faire une unité politique, mais il n'y a pas de mise en cause de cette unité rédactionnelle, de cette unité de langue, cette unité du livre en lui-même. Donc par rapport à la Bible, on est face à des réalités littéraires, si nous le prenons à ce niveau-là, qui sont très différentes. Il est également intéressant de remarquer que dans le Coran, c'est essentiellement Dieu qui s'exprime à travers la première personne du pluriel. Donc le Coran se présente aussi au niveau de son contenu, comme étant cette irruption soudaine et directe de la parole de Dieu dans l'histoire des hommes. Tout converge vers une représentation de la révélation sous ces traits-là, de cette irruption soudaine et directe de la parole de Dieu dans l'histoire des hommes. Donc nous voyons qu'au niveau de la pensée sur la révélation, nous avons des perspectives très différentes du point de vue judéo-chrétien ou du point de vue musulman. Si nous regardons la réalité du livre, nous avons des livres aussi qui sont très différents. Il nous faut maintenant faire un pas de plus pour essayer de voir quel est le statut respectif de ces deux livres dans les communautés des uns et des autres. Dans les deux traditions, chrétienne et musulmane, nous retrouvons les trois mêmes éléments, à savoir la parole de Dieu, le prophète qui la transmet, et le texte qui consigne cette parole. Mais l'articulation de ces trois éléments se joue de façon fort différente. Et c'est là un point important, me semble-t-il, à bien prendre en compte aussi dans notre façon de penser notre foi chrétienne. Si nous regardons la tradition judéo-chrétienne, il y a toujours un événement qui est antérieur et premier par rapport au texte. C'est l'événement qui fonde le texte. Si nous prenons par exemple le récit de la libération de l'esclavage d'Égypte dans le livre de l'Exode, ne disons pas que l'événement qui s'est passé correspond parfaitement à ce qui est écrit dans le livre, mais il y a nécessairement, antérieure à la production du texte, une expérience de fuite de l'esclavage, de libération, peu importe, enfin une expérience historique vécue comme une libération par un petit groupe d'hommes qui était dans une situation d'esclavage et qui se découvre en situation de liberté et qui relie cette expérience comme une action de Dieu en leur faveur qui les libère. Et la production du texte ultérieurement mais est l'objet de cette relecture, mais suppose l'événement initial qui est qu'il y ait eu quelque part dans l'histoire, aussi modeste que ce soit, un petit événement de libération qui soit fondateur pour la mémoire collective. On peut dire la même chose pour la question de la ruine de Jérusalem par rapport au livre des rois ou à la vie de Jésus par rapport aux évangiles. On n'imaginerait pas la production des textes des évangiles sans qu'il y ait eu un monsieur Jésus qui ait vécu en Palestine à telle époque, etc. Donc il y a un événement historique qui précède le texte. Et chaque fois, le texte est mémoire de l'événement pour une part, mais surtout déploiement de son sens avec une visée plus large. Nous pouvons dire, d'une certaine façon, que du point de vue judéo-chrétien, la tradition est antérieure à l'écriture. Avant qu'on produise un texte, il faut qu'il y ait eu un événement et qu'on se le soit raconté comme un événement structurant d'une mémoire collective. Il y a une tradition qui précède l'écriture. Et c'est d'ailleurs le critère qui est utilisé, nous l'avons vu, pour la fixation du canon, lorsque l'on dit que c'est la fidélité à la tradition des apôtres qui sert de critère pour retenir un texte. En islam, la situation est radicalement différente. L'écriture, le texte coranique, est antérieur à la tradition. C'est l'écriture, le texte, qui est l'événement fondateur. Et l'écriture est le critère d'authenticité et la norme d'évaluation de la tradition. La tradition se déploie à partir d'un événement littéraire, un événement de révélation, un texte, le texte du Coran tel que la révélation a été descendue sur le prophète Mohammed. Donc nous voyons que dans le rapport du texte à la tradition, nous avons un rapport simplement inversé. Et dans les relations humaines de dialogue, de rencontre ou d'échange, c'est quelque chose qui est très important, parce que cela veut dire que l'on pense simplement en sens inverse, les uns et les autres, dans notre rapport à la fidélité, à ce qui nous constitue dans notre identité croyante. Et que donc, très vite, on peut se percevoir les uns comme infidèles à la révélation et les autres comme fondamentalistes ou littéralistes. Donc on peut avoir de gros malentendus, des perceptions inadéquates des uns et des autres, simplement parce qu'on ne prend pas en compte ce qui est structurant dans la façon de se représenter la tradition et la révélation. Alors, un second élément qui est tout à fait déterminant, c'est de savoir ce qui est la parole de Dieu pour les uns et les autres. Pour les chrétiens, la parole de Dieu, c'est la personne de Jésus. Ce n'est pas le livre en lui-même, mais c'est une personne, la personne de Jésus. L'évangile de Jean l'exprime de façon admirable dans son prologue, au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe s'est fait chair, il a été parmi nous. C'est cette parole éternelle de Dieu, présente dès la création du monde, qui se fait homme en Jésus, et c'est dans la personne de Jésus que les chrétiens reconnaissent la parole de Dieu. Ce n'est pas donc d'abord le texte des évangiles qui est parole de Dieu pour nous, mais d'abord la personne de Jésus qui par toute sa vie est parole de Dieu. Et l'Écriture a pour objet de rendre témoignage à Jésus pour conduire vers lui. L'Écriture n'arrête pas à elle-même, mais elle ouvre à sortir de l'Écriture pour aller à la rencontre d'une personne, la personne de Jésus. Donc, le texte en lui-même renvoie hors du texte. Il nous laisse hors texte. La révélation, c'est donc Jésus lui-même qui déborde largement le cadre des Écritures, et les Écritures d'ailleurs en sont bien conscientes. Ce sont les beaux textes de Saint Jean que nous réentendons ces jours-ci dans la fin de l'évangile de Jean, soit dans le chapitre 20 où l'évangile dit « Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre ». Donc le but du livre n'est pas d'enfermer Jésus dans le livre, mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc le texte ne se veut même pas adéquation entre la personne de Jésus et la lettre, mais il nous renvoie hors texte dans une relation à Jésus dont la personne déborde largement du texte. En Jean 21, il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites, et s'il fallait écrire chacune d'elles, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres que l'on écrirait. C'est aussi un souci pratique qui guide l'évangéliste de ne pas nous obliger à avoir des bibliothèques trop grandes. Donc, la parole de Dieu pour les chrétiens est une personne et pas d'abord un texte. En islam, par contre, la parole de Dieu est le Coran. C'est le texte et son contenu. Si le prologue de Jean nous dit que le Verbe éternel de Dieu s'est fait chair en Jésus, la foi musulmane dit que la parole éternel de Dieu est descendu sur le prophète qui joue un simple rôle de transmetteur et consigné dans le texte qui est mis par écrit. Donc il s'agit bien de part et d'autre de prendre en considération une parole éternelle de Dieu et de voir comment elle est transmise aux hommes. Dans la tradition chrétienne, c'est à travers une personne, celle de Jésus. Dans la tradition musulmane, à travers un texte, le livre du Coran. Et il y a un penseur musulman qui s'est beaucoup frotté au dialogue islamo-chrétien il y a déjà bien des années, Mohamed Talbi, qui disait que le Coran, parole de Dieu, tient pour le musulman la place que tient Jésus-Christ pour le chrétien. Donc, lorsque nous avons, mettons comme titre à notre rencontre d'aujourd'hui, Bible et Coran, ce dont il s'agit bien de prendre la mesure, ce n'est pas d'une symétrie, mais d'une dissymétrie. Hein, la parole de Dieu pour le musulman est le Coran, le texte, le livre, tandis que pour le chrétien, la parole de Dieu est une personne, la personne de Jésus. Alors, si après ce petit parcours où nous nous sommes interrogés sur la façon dont on pense la révélation chez les uns et les autres, comment le livre se présente, et puis comment, quel est le statut de ce livre dans chacune des deux communautés, en prenant bien la mesure des différences qu'il y a, je crois qu'il devient alors aisé de repérer différents malentendus qui peuvent survenir dans la rencontre entre chrétiens et musulmans. Je voudrais m'arrêter à trois principalement, en prenant tout d'abord une expression coranique, Ahl al-Kitab, l'expression donc, qui veut dire les gens du livre, qui est une expression qui est utilisée dans le Coran pour désigner à la fois les juifs, les chrétiens et les zoroastriens, et qui est une expression positive. Quand on parle d'Ahl al-Kitab, c'est avec respect. Ce sont des gens qui ont reçu une révélation, ce ne sont pas des païens. Donc c'est une expression très positive dans le langage coranique et dans la pensée aussi, dans le cœur des musulmans. Quand ils disent « nous sommes quand même des gens du livre », c'est une parole positive et valorisante qu'ils adressent à leurs interlocuteurs. Mais malheureusement, comme chrétiens, nous devons leur répondre « eh bien non, nous ne sommes pas des gens du livre ». Notre identité n'est pas au sens où la tradition musulmane, les musulmans sont effectivement Ahl al-Kitab, ce sont des gens du livre. Mais comme chrétiens, nous ne sommes pas des gens du livre dans ce sens-là. Nous sommes les disciples d'une personne, la personne de Jésus, Christ, mort et ressuscité. L'expression coranique de gens du livre ne correspond pas à ce que les juifs et les chrétiens disent sur eux-mêmes. Donc, dans la rencontre, il est important de pouvoir se dire très rapidement, mais ces points qui risquent de générer des malentendus. Mais non, comme chrétiens, nous ne sommes pas des gens du livre, au sens où le Coran en parle et où les musulmans sont effectivement des gens du livre. Un deuxième terme qui intervient régulièrement lorsque on est amené à échanger sur nos fois respectives, c'est ce terme que nous avons déjà rencontré, qui est celui de tahrif, qui est parfois traduit par falsification, et qui fait que les musulmans, même s'ils ne présument pas une mauvaise foi intentionnelle de leurs interlocuteurs chrétiens, auront toujours quand même le sentiment que les écritures auxquelles recourent les chrétiens sont quand même des écritures qui ont été falsifiées. Le mot « tahrif » en tant que tel, je vous l'avais expliqué lors d'une séance précédente, ne veut pas dire « falsification ». La racine, c'est « harf », la lettre, le signe linguistique. Donc faire du « tahrif », ça peut être inverser des lettres ou une erreur de copiste. Ça n'a pas de connotation intentionnelle, mais dans l'apologétique, parfois, ce tahrif est devenu un tahrif beaucoup plus intentionnel qui est attribué aux chrétiens. Et il y a un exemple qui est dans l'apologétique musulmane la plus basse, parfois utilisée, que vous avez peut-être déjà entendu, hein, c'est le fait que, en fait, les évangiles annoncent la venue de Mohammed. Et ce point où les chrétiens font du tahrif, c'est le point de l'évangile de Jean, où l'évangile de Jean annonce la venue du paraclet, hein, donc paraclétos. Et comme vous savez, quand paraclet, ce n'est pas de l'arabe, mais c'est du grec. Mais enfin, si on le lisait comme si on était des arabes, on ne verrait que les consonnes. Donc on pourrait lire aussi bien Péricloutos que Paraclétos. Et Péricloutos, ça veut dire celui qui est renommé, qui est célèbre. Ça veut dire celui qui est Mohammed. Donc, Jésus a donc bien annoncé la venue de Mohammed, si ce n'est que les chrétiens ont vocalisé Paraclétos au lieu de vocaliser Péricloutos. Donc, c'est un des exemples qui est parfois utilisé dans l'apologétique musulmane pour montrer ce tahrif qu'ont fait les chrétiens. Vous voyez qu'il n'est pas très, très fondé, hein, puisqu'il confond deux langues, hein, l'arabe et le grec. Mais donc vous voyez bien que cette notion de tahrif attribuée aux écritures juives et chrétiennes pour surmonter la difficulté, parce que la question du tahrif vient d'abord de là, hein, il y a une difficulté à surmonter qui est celle des divergences entre les écritures. Les écritures juives, chrétiennes et musulmanes divergent sur un certain nombre de points. Et comment rendre compte de ces divergences? On ne peut pas attribuer l'erreur à Dieu. C'est donc nécessairement au niveau de la transmission qu'il y a eu des problèmes, qu'il y a eu des erreurs, et c'est donc à ce niveau-là que le concept de tahrif vient rendre compte des divergences qu'il y a entre les différentes versions de la révélation. Mais vous comprenez évidemment directement que ce genre de raisonnement ne tient que dans la perspective musulmane de la révélation, qui est celle d'une descente, et où Dieu finalement descend sur chacun de ses prophètes exactement la même révélation. Il a descendu la même chose sur Mohammed, qu'il avait descendu sur Jésus, qu'il avait descendu sur Moïse. La révélation a été la même, mais dans la transmission, il y a eu des problèmes. Et donc, si vous voulez avoir la version dernière, et donc ultime, de ce que Dieu a descendu, mais il vous suffit de lire la version coranique, puisque les précédentes ont souffert au long de leur histoire de ces falsifications intentionnelles, ou à tout le moins de ce tahrif, de ces erreurs de transmission opérées par des copistes. Mais évidemment, cela présuppose le schéma de révélation comme descente. Le schéma de révélation judéo-chrétien n'est pas confronté à cette difficulté-là. Nous ne sommes pas ennuyés par les contradictions qu'il y a dans nos Écritures. Nous ne sommes pas ennuyés parce que nous avons quatre évangiles qui ne disent pas la même chose et qu'on ne saurait même pas se faire recouper parfaitement. Nous savons bien que derrière ces textes, ce qu'il y a, c'est la vie de communautés croyantes qui veulent, par le texte, nous conduire hors texte dans la rencontre du Seigneur ressuscité. Donc, ce sont autant de chemins à parcourir pour sortir du texte, pour aller hors texte. Tandis que dans la perspective de la révélation dans la tradition musulmane, il s'agit bien de séjourner dans le texte, puisque c'est lui qui est la parole divine. Donc, sans prendre vraiment en considération les différences de conception du livre et de la révélation, ben, on arrive à un dialogue de sourds, hein, si on s'accuse de tahrif d'un côté et de fondamentalisme de l'autre. Il est... Car la troisième question, qui est alors l'interpellation souvent lancée hein, par les milieux ou occidentaux ou judéo-chrétiens, qui est d'inviter à recourir à des méthodes historico-critiques pour lire le Coran. Évidemment, nous ne pouvons pas faire autrement pour la Bible. Quand on a un texte qui traverse 12 siècles, si nous voulons essayer de comprendre quelque chose de ce qu'il y a dans ce texte, nous devons nécessairement nous interroger sur le contexte de production. Mais si c'est un texte qui est écrit de toute éternité auprès de Dieu et qui est descendu sur le prophète Mohammed, qui joue un simple rôle de transmetteur, en quoi finalement le contexte historique de l'Arabie du 6e, du 7e ou du 8e siècle, hein, même dans la perspective où on dirait que le texte s'est produit beaucoup plus tard, vient changer quelque chose à son contenu? Donc, vous voyez bien que si, qu'en prenant en compte la représentation de la révélation, et qui n'est pas, nous l'avons vu au départ, hein, qui n'est pas une question idiote, parce que dire que Dieu a parlé est un fameux défi à relever pour les croyants. Hein, et donc, nous avons deux chemins différents dans la tradition judéo-chrétienne et dans la tradition musulmane pour rendre compte de ce paradoxe du fait que Dieu puisse se révéler. Mais ces deux chemins font que si nous, dans la rencontre, ne prenons pas en considération que nous avons des représentations différentes, très vite, nous ne nous comprenons plus. En conclusion, je voudrais dire qu'il me paraît indispensable de vraiment respecter la conception propre à chaque tradition pour pouvoir envisager un dialogue ou une rencontre interreligieuse véritable. Mais vous voyez dans le même temps aussi combien cela interpelle, en l'occurrence le chrétien, dans la cohérence de sa propre foi. Parce que combien de chrétiens, finalement, ne vivent pas avec une conception musulmane de la révélation? Dites-moi. Et donc, la conception musulmane de la révélation et de beaucoup d'autres thèmes religieux est une conception, finalement, beaucoup plus naturelle, simple. Si Dieu veut parler, qu'il nous parle en direct. Hein, il a parlé à Moïse, qui a écrit lui-même, évidemment, tout le Pentateuch. Hein? Et donc, il a gravé les tables de la loi sous la dictée de Dieu. Hein? Et donc, cette lecture-là, fondamentaliste, est rendue impossible par le livre si on le lit bien. Mais elle reste néanmoins très présente dans la vie de nombre de chrétiens. Et donc, la rencontre interreligieuse, si on veut éviter de gros malentendus, nous renvoie aussi à la nécessité d'une rigueur dans la façon de penser notre propre foi et de bien voir la cohérence de ce qui fait notre foi. Sinon, il vaut mieux devenir musulman. Parce que là, c'est plus cohérent, c'est plus rationnel. Et mon père, évidemment, alors la pointe, de ce qui fait la révélation chrétienne à proprement parler. Mais là, la rencontre avec l'islam nous oblige vraiment à une forte cohérence par rapport à notre propre foi. Exigence pour nous, exigence aussi d'éviter d'utiliser des concepts qui tirent uniquement leur validité du contexte de la tradition dans laquelle ils sont utilisés. Hein, parler de critique historique par rapport au Coran, ce n'est pas pertinent. Parler de tahrif par rapport aux évangiles, ce n'est pas pertinent. Ces deux concepts ont leur pertinence dans leur lieu de naissance, mais si on veut les transposer tels quels, ils n'apportent rien au débat. Ils introduisent plus de malentendus qu'autre chose. La difficulté de ce point de vue-là est sans doute plus grande pour les musulmans, dans la mesure où leurs textes contiennent des affirmations sur les révélations antérieures. Par la force des choses, nous, dans l'Évangile, nous n'avons rien sur le Coran ou sur Mohammed. Donc nous devons nous fier à ce que le Coran dit de lui-même, tandis que la tradition musulmane a une présentation de ce qu'est le judaïsme authentique, de ce qu'est le christianisme authentique. Et donc cet effort pour entrer dans la conceptualité de l'autre est un effort plus important qui est à faire pour les amis musulmans que pour nous chrétiens qui, par la force des choses, devons sortir de notre univers propre pour nous interroger sur ce qu'est l'islam, puisque nous n'en savons rien à partir de nos écritures en elles-mêmes. Ces difficultés ne paraissent néanmoins pas insurmontables, comme en témoignent différents auteurs contemporains, mais le défi qui me paraît lancé à chacune des communautés bénéficiaires d'une révélation divine, c'est celui sans conteste de veiller à ce que la parole de Dieu s'articule de façon vitale à la vie des hommes et des femmes d'aujourd'hui, et cela ne pourra se faire que dans le respect de ce que sont les écritures respectives et pas en se faisant violence réciproquement dans les représentations des écritures. Donc dans une grande rigueur dans ce qui fait la foi des uns et des autres, pour que le rapport à la révélation qui nous est donnée d'un côté ou de l'autre nous soit nourrisse de façon vitale une attitude de foi, et c'est là que la rencontre devient possible et pas en glissant sur des concepts qui n'ont de validité que dans la tradition où ils sont nés. Voilà une première grande question, me semble-t-il, à laquelle nous devons être attentifs dans la rencontre, prendre la mesure des différences, et nous allons la fois prochaine faire le même petit exercice à propos de la figure d'Abraham. Tous fils d'Abraham, point d'interrogation, hein? Donc nous nous interrogerons là, oui, d'une certaine façon, mais il ne faut peut-être pas en dire beaucoup plus. Donc, et nous verrons alors la troisième semaine la question de la figure de Jésus et de Marie dans la tradition musulmane, pour prendre aussi la mesure des différences de perception qu'il y a de part et d'autre. Bonne soirée.